Vous écoutez sur Radio Grand Ciel notre émission hebdomadaire Histoire d'en savoir plus. Bonjour à tous, c'est Christophe Jubien qui en assure le bon déroulement technique dans les studios de Chartres. Au micro, Elisabeth Couget. Dans cette émission, semaine après semaine, nous abordons des sujets de société aussi différents que possible. Et en même temps, nous vous faisons rencontrer des personnes très variées qui, chacune de son domaine, vous permettent d'en savoir un peu plus. Mon invité d'aujourd'hui est Maître Michel Festivi, avocat au barreau de Chartres. Bonjour Michel et bienvenue.
Bonjour, bonjour à tous.
J'avais envie de vous inviter dans notre studio pour que vous nous racontiez quelle est la vie d'un avocat d'aujourd'hui. Mais j'aime que nos auditeurs connaissent un peu nos invités avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors mes premières questions seront un peu plus personnelles, mais je vais être discrète quand même. D'où venez-vous, Michel Festivi?
Ben, je suis né à Grenoble.
Donc, c'est un montagnard.
J'ai bientôt 60 ans.
Moi, je n'ai pas voulu demander des âges. Donc, depuis de la montagne dans la grande plaine, alors.
Je suis né à Grenoble et j'ai fait mes études à Grenoble. Oui. Je suis arrivé à Chartres en 1981.
Ah bon, d'accord. Donc, il y a déjà un petit moment. Donc, votre famille, d'après le nom, d'origine italienne, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Maman, papa, les deux italiens?
Les deux.
J'espère que vous parlez l'italien?
Un petit peu.
Un petit peu, c'est très bien. C'est une ville magnifique, une langue super. Et Grenoble, vous avez eu du mal à le quitter un jour ou non?
Pas trop, non. Ça a été.
Ça a été,
oui, oui.
D'accord.
J'ai été à Millau d'abord, avant de venir à Chartres. Ah, Millau dans l'Aveyron.
Avant le pont.
Oui,
bien avant le pont, d'accord. Alors les études, vous les avez donc accomplies à Grenoble, je suppose?
À Grenoble.
Toutes?
Tout à Grenoble, oui.
Tout à Grenoble. Donc, bien entendu, puisque vous êtes avocat, ça veut dire que vous avez fait des études de droit.
Bien sûr.
C'est ça. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous a poussé à devenir, à faire du droit déjà et à vouloir être avocat?
Le droit, c'était un peu, je dis pas un hasard, mais un peu par hasard, oui, parce que bon, quand on a le bac et qu'on est fils d'ouvrier comme je l'étais, les choix sont pas trop faciles à faire. Et donc, je me suis dit qu'en faisant du droit, je trouverais du travail. Et c'est en troisième année, quand je suis arrivé en troisième année de droit, que le métier d'avocat a commencé à me titiller. Et je me suis dit, ben, peut-être que je ferai ce métier-là.
Il n'y a pas une anecdote particulière qui, je sais pas, auquel vous pensez en disant, ben, tiens, c'est peut-être pour ça?
Je ne voulais pas être fonctionnaire. Mm-hmm. Donc j'ai fait une profession libérale. J'ai essayé de faire une profession libérale, voilà.
Ben d'accord, vous étiez courageux là, parce que c'est pas facile et les études c'est quand même pas très facile. Alors même en étant néophyte, on sait que les études de droit, dans les études de droit il y a différentes branches.
Droit privé, droit public, oui bien sûr.
Exactement, et qu'est-ce qui vous a décidé, pourquoi vous avez choisi tel ou tel? Parce que vous allez nous dire ce que vous avez choisi.
Ben, j'ai choisi du droit privé parce que quand on veut faire le métier d'avocat c'est les carrières judiciaires, donc c'est le droit privé.
D'accord. Et pourquoi vous l'avez choisi ça? Toujours pour ne pas être fonctionnaire?
Ou pas? Oui, sans doute. Et puis, bon, ben, de toute façon, à partir du moment où en troisième année, j'ai envisagé de faire cette carrière d'avocat, il fallait que je prenne le droit privé de toute façon.
Ah d'accord, donc c'est comme ça que ça se passe. Et il y a combien d'années d'études?
Aujourd'hui, ça a beaucoup augmenté, pratiquement 5 ou 6 ans d'études. À mon époque, c'était plus court, 4 ans pour avoir la maîtrise. Ensuite, on passait le concours d'avocat et puis après, on trouvait un stage. Il fallait trouver un stage dans un cabinet d'avocat qui durait 3 ans.
Ah d'accord, oui, quand même. Hein. Donc, oui, c'est pas du jour au lendemain, alors. Alors, on sait que les études de droit sont très difficiles, demandent beaucoup d'efforts. Moi, je le comparais un petit peu avec les études de médecine, où il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur, à retenir. Donc, ça demande déjà un très bon mémoire.
Les études de droit, ça ne s'improvise pas. On ne peut pas arriver à l'examen en n'ayant pas travaillé, c'est pas possible.
Alors, sachant que ce sont des études assez difficiles, comment ces années... Ces 5 années, finalement, ont déroulé?
Très bien. Très bien, parce que j'ai de très bons souvenirs de ma vie d'étudiant à Grenoble. Ça s'est très bien passé. J'avais des copains, tout ça. Ça s'est très bien passé.
Et pas d'examen à redoubler, pas
non,
de repassage?
Non, non.
Mais vos parents devaient être certainement très fiers de vous, très heureux.
Oui, puis
heureux.
Vous savez, quand on est fils ouvrier, on n'a pas le choix. Hein. Ou on travaille et on réussit, ou alors ben, après on va à l'usine. Hein. Donc, comme j'allais beaucoup à l'usine l'été, quand j'étais étudiant ou lycéen, j'avais pas trop envie d'y retourner.
Ah bon, oui, j'imagine que vous avez eu envie de faire autre chose, bien sûr.
J'ai absolument eu envie de me sortir de la condition où étaient mes parents, et mon père m'y a fortement encouragé.
Et vos parents sont arrivés en France beaucoup plus tôt ou ils étaient
Mon père est arrivé en France, il avait 6 ans, parce que c'est mon grand-père qui est arrivé donc de Toscane en France. Ma mère, elle, est arrivée beaucoup plus tard. Elle était lombarde, de Lombardie, elle est arrivée, elle avait déjà 25 ans. Ils se sont rencontrés donc dans l'Isère, à côté de Grenoble, là où je suis né après.
Ah, d'accord. Alors, je dis que... Vous avez fait vos études sans trop de soucis, alors on va faire une pause musicale dans un petit moment. Mais juste avant, j'aurais voulu encore demander, donc vous avez eu, alors on calcule, vous êtes né il y a 60 ans, vous avez fait vos études sans problème, donc 23 ans, vous êtes rentré en stage d'avocat, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ah, oui, il y a eu le service militaire, mais...
Ah bon, oui, quand même, c'était l'époque bénie des services militaires.
Oui, je crois qu'on ferait bien dire... Penser sérieusement.
Actuellement, c'est un sujet, je crois, qui est un sujet brûlant.
Peut-être pas un an d'armée, mais je crois que quelques mois d'armée, ça ferait du bien à pas mal de jeunes.
Oui, ça ferait peut-être aussi un bon mélange pour mélanger les gens et
exactement.
Donc, se connaître, s'apprécier, etc. Bon, ça, c'est une autre, ça serait le sujet d'une autre émission, je crois.
Mais... Je crois aussi.
Donc, vous avez eu votre diplôme en quelle année? Puisque
en
78, j'ai du mal à compter.
En 78, quelque chose comme ça.
Ah bon, voilà. Donc, ça fait déjà un petit moment. Alors, en attendant de retrouver Michel Festivet et parler de sa vie d'avocat, puisque maintenant on y arrive, je vous propose une première pause musicale. Et donc, quand je lui ai posé la question ce qu'il voudrait entendre, il m'a dit « Mets les danses hongroises de Brahms ». Alors voilà, donc j'ai choisi le numéro 5. C'était pour me faire plaisir ?
Oui, aussi, mais j'aime beaucoup la musique hongroise.
Bon, là, n'empêche pas l'autre, donc... Je suis dans les studios de Radio Grand Ciel de Chartres en compagnie de Maître Michel Festivet, avocat au barreau de Chartres, pour vous faire découvrir ce qu'est d'être avocat. Avant la coupure musicale, nous avons évoqué la jeunesse et les études de notre invité et nous nous sommes arrêtés à la fin de vos études. Donc, vous êtes devenu avocat en 1960.
Ouais, j'ai fait le service militaire, j'ai commencé au début de l'année 1980.
En 80, voilà. Tout de suite au barreau de Chartres ?
Non, au barreau de Millau d'abord.
Ah, au Millau. Ah oui, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure. Effectivement, avant le pont. Et donc, ça vous a... Combien de temps vous êtes resté là-bas?
Je suis resté environ 2 ans.
2 ans, d'accord.
Et je suis arrivé à Chartres en septembre 1981.
Et qu'est-ce qui vous a amené à Chartres?
Le hasard, une annonce dans la Gazette du Palais.
Ah d'accord. Et c'est vraiment étonnant, quelqu'un qui est né et qui a vécu dans les montagnes, et même Millau aussi, c'est assez mouvementé autour... C'est d'avoir envie de vivre dans un pays, un plat pays, comme la Beauce.
C'est pas que j'ai eu envie de vivre ici, c'est le hasard de la vie professionnelle. Il y a eu une annonce, j'ai répondu, j'ai été pris, je suis venu à Chartres, et puis après je m'y suis plus. Mes enfants sont tous nés à Chartres, et voilà, on est resté à Chartres, et puis voilà.
Vous êtes devenu un vrai Beauçon maintenant. Hein.
Complètement.
Pour moi, un avocat, c'est un peu comme un acteur. L'acteur est devant son public, quant à l'avocat est devant son auditoire, et tous les deux ont le droit de convaincre. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez ressenti lors de votre première plaidoirie?
Les premières fois, on a peur, forcément, on tremble, on a le trac. Après, les choses vont mieux petit à petit.
D'accord. Et vous vous souvenez de la première affaire?
Première affaire, je ne m'en souviens plus, mais...
Le sujet, enfin, ou à peu près même pas.
J'ai dû être commis d'office pour défendre des gens qui avaient bu en conduisant ou des choses comme ça, sans doute. Je ne me rappelle plus très bien.
Ah, vous étiez déjà marié à l'époque,
oui,
en arrivant
oui,
à Chartres?
À Chartres, j'étais marié, oui, tout à fait. Oui.
Ah, d'accord. Oui. Oui, parce que votre épouse est grenobloise aussi.
Aussi,
voilà.
Oui.
Exactement. Donc, pour un homme de loi, avoir une vie de famille équilibrée est un atout majeur.
On pose souvent la question, on me dit quelles sont les qualités pour être un bon avocat. Je leur dis souvent, sous la forme de la boutade, mais c'est à mon avis vrai, d'abord il faut avoir une bonne santé.
Ah, d'accord.
Je dirais une bonne santé physique, mais aussi une bonne santé mentale. C'est-à-dire qu'il faut être fort physiquement, parce qu'il ne faut pas tomber malade, parce que si on tombe malade, on ne peut plus travailler. Et ça, une profession libérale, c'est très compliqué. Ouais. Mais aussi, il faut être bien dans sa tête, il faut être équilibré et avoir beaucoup de recul, parce qu'on épouse les causes de ses clients. Les clients voudraient vous emmener dans leurs soucis. Et justement, il faut garder beaucoup de distance et beaucoup de... Il faut rester bien en arrière pour pouvoir être efficace.
Mmh, oui, c'est ça. Et il faut pouvoir, je pense, aussi, une fois sorti de votre bureau, de fermer une case. Ça y est, c'est fini.
Absolument. Absolument.
C'est pas donné à tout le monde. Hein, il faut...
y a des gens plus ou moins faits pour ça, c'est sûr. Mais moi, je suis non plus pas fait pour d'autres métiers. Hein. Je suis pas un manuel. J'aurais pas pu être médecin, par exemple, parce que je suis pas un scientifique. Voilà. Chacun a des compétences dans tel ou tel domaine.
Mm-hmm. Est-ce que quand on est avocat aujourd'hui, est-ce que on peut dire que ça peut être un métier dangereux éventuellement? Ça peut arriver?
À Chartres, je pense pas. À la marge, peut-être, on ne sait jamais. On peut toujours tomber sur des déséquilibrés, soit des clients déséquilibrés, soit des adversaires qui déséquilibrés, qui peuvent effectivement avoir de mauvais réflexes. Mais globalement, non. Je pense pas quand même. Non, on ne peut pas dire que ce soit un métier dangereux quand même.
Bon, on est dans une ville où je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu affaire à des véritables criminels extrêmement dangereux?
Ah oui, j'ai beaucoup plaidé aux assises et encore tout dernièrement, enfin décembre, mais. Moi, je suis essentiellement en partie civile parce que, c'est une de mes particularités de ma clientèle. Je défends depuis 25 ans la police nationale donc et les policiers, que ce soit sur Chartres ou sur Dreux. Donc, effectivement, j'ai plaidé dans... Et puis, j'ai défendu longtemps également des enfants qui étaient martyrisés ou soit violés, soit battus. Et donc, j'ai plaidé dans beaucoup d'affaires d'assises ou en correctionnel, puisque je plaide quasiment toutes les semaines devant le tribunal correctionnel. Et j'ai vu des criminels, oui, des vrais criminels, bien sûr.
Et comment, heureusement, il vaut mieux ne pas être leur avocat, j'imagine. Enfin,
ça serait... l'avocat, vous savez, il faut bien des avocats pour les défendre.
Oui, hein, c'est ça. Bien sûr. Hein.
Bon, après, chaque avocat, en fonction de sa personnalité et de son ressenti, oriente sa carrière comme il l'entend. En tout cas, il essaye. Donc après, au bout d'un moment, on peut éventuellement choisir sa clientèle, c'est sûr.
Mm-hmm. Est-ce que vos enfants ont suivi votre voie ou bien...
Non, j'ai aucun de mes enfants qui a suivi mon parcours.
Non,
ils ont tous fait des choses différentes.
D'autres chemins, oui, c'est vrai que ça...
Ils ont pris d'autres chemins, oui.
Peut-être qu'ils ont vu que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé.
Non, je ne sais pas, c'est comme ça.
En tout cas, j'aimerais bien savoir comment se déroule une journée type d'un avocat. Donc, en l'occurrence, la vôtre.
Je me lève vers 7h du matin. À 8h, je suis au bureau, on ouvre le courrier avec mes associés, on fait un peu le point de la journée. Ensuite, chacun part à ses audiences. C'est beaucoup les audiences, donc juge d'affaires familiales, tribunal correctionnel, tribunal d'instance, tribunal de grande instance, réception des clients, etc.
En fait, c'est assez sportif parce que vous devez vous déplacer tout le temps.
Il faut beaucoup, on bouge beaucoup, oui. On jongle beaucoup entre les audiences, on attend beaucoup, donc parfois on a plusieurs audiences en même temps, voilà.
Ah oui, d'accord. Mais heureusement, vous avez des moments où vous asseyez un petit peu de temps en temps.
On essaye de s'asseoir un peu au bureau. Et puis aujourd'hui, depuis quelques années, c'est les mails, la réponse aux mails, le courrier, tout ça, tout est par Internet maintenant. Donc,
et est-ce que ça facilite Internet, ça facilite le travail d'un avocat? Ou il y a des choses qui vont plus facilement que dans le temps
Je dirais... Ça le facilite et ça le complexifie. Ça le facilite parce qu'effectivement, c'est quand même un outil moderne très...
Pratique.
Très pratique, très très pratique. Mais en même temps, les clients vous bombardent de mails, donc il faut leur répondre très rapidement. Ils ne comprennent pas que dès qu'ils vous envoient un mail, vous ne leur avez pas encore répondu. Donc ça accélère énormément le cours des choses.
Ils vous envoient leur mail directement à vous ?
Oui, parce que forcément, sur mon papier à lettre, sur ma carte de visite, il y a j'ai mon adresse internet.
D'accord.
Oui, on est obligé de la donner. On ne peut pas travailler autrement aujourd'hui.
Oui, d'un autre côté, même pour des raisons de comment on appelle ça, pour ne
mais à la
que
limite,
les choses ne se transmettent pas, il vaut mieux que ça soit...
Oui, mais souvent, d'ailleurs, je dis à mes clients, je préfère que vous m'envoyiez un mail plutôt que me téléphoner, parce que me téléphoner, c'est compliqué. Je peux être en rendez-vous et dans une audience. Je ne suis pas forcément là. Par contre, vous m'envoyez un mail et moi, j'essaye de vous répondre le plus vite possible. Dans les 24, dans les 48 heures, je vous réponds.
D'accord. Alors, en tout cas, on voit que vos journées sont bien remplies. La musique ne peut pas vraiment faire partie, du moins dans les journées, j'imagine. Mais je crois savoir que vous aimez la musique et quand vous avez l'occasion, vous assistez à des concerts. Alors, cette fois-ci, pour cette nouvelle pause musicale, c'est moi qui vous en propose une belle musique italienne, un extrait d'Aïda, Céleste Aïda.
Très bien.
Dans cette ultime partie de notre émission Histoire d'en savoir plus sur les ondes de Radio Grand Ciel, nous continuons à découvrir la vie d'un avocat d'aujourd'hui, Maître Michel Festivi. Merci encore d'être avec nous. Tout à l'heure, on a découvert que vous avez démarré votre carrière à Millau et vous êtes arrivé à Chartres, au barreau de Chartres, en 1981. Donc, ça fait 34 ans que vous êtes là. Comment s'est déroulé c'est plus que presque trois décennies et demie.
J'avoue que je ne les ai pas vus passer, ça a été très vite. J'ai aussi eu beaucoup de responsabilités à un moment donné à l'Ordre des avocats, puisque j'étais membre du Conseil de l'Ordre pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai été bâtonnier pendant deux ans, donc en 1995 et en 1996.
C'est quoi exactement
bâtonnier, d'être bâtonnier. Vous êtes le chef de l'Ordre pendant deux ans, c'est-à-dire que c'est vous qui gérez la vie de l'Ordre et qui, en quelque sorte, êtes le patron de l'Ordre des avocats pendant deux ans. Voilà.
D'accord.
Mmh. Et ça, c'était très passionnant, voilà.
C'est différent.
Ah, pendant deux ans, vous mettez un peu votre profession entre parenthèses.
D'accord. Et vous, finalement, vous supervisez tout le monde.
Voilà,
c'est ça.
On a les contacts avec les magistrats, avec les officiels, avec la préfecture, avec les institutions. Et puis, on gère toutes les difficultés des avocats.
Et on ne reste pas bâtonnier tout le temps ou...
Non, ce n'est pas possible. On fait ça, on est élu pour deux ans. Après, on peut revenir, mais on est élu pour deux ans.
Ah d'accord, oui, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est un métier difficile?
Oui, c'est un métier difficile, mais c'est un métier passionnant. C'est un métier où on ne s'ennuie jamais. On fait plein de choses différentes. On voit des tas de gens complètement différents, des tas de situations complètement différentes. Voilà.
C'est pas un travail ennuyeux en tout cas. Hein.
Pas du tout, non.
On ne doit pas s'ennuyer.
Pas du tout.
Est-ce que vous êtes arrivé quand même d'avoir envie d'être ailleurs au moment où vous étiez
Ça arrive toujours parce qu'il y a toujours des périodes de la vie où on a des stress, où on a plus de difficultés qu'à d'autres moments. Mais globalement, non. Oui, ça m'est arrivé ponctuellement, mais on oublie très vite. Hein. Il y a des fois où on se dit mince, voilà, mais après on oublie très vite. Le travail reprend le dessus, puis le métier reprend le dessus.
En fait, vous êtes un homme heureux dans votre travail,
complètement.
En tout cas.
Hein. Oui, bien sûr, je ne regrette absolument pas.
C'est ça, voilà. Vous ne regrettez pas. Hein. Donc jamais vous avez dit, j'aurais pu faire autre chose, être acteur,
j'aurais peut-être pu faire autre chose, mais non, je regrette. Puis il ne faut pas regarder en arrière, ça ne sert à rien, il ne faut pas regretter, il faut aller de l'avant.
Vous avez, dans votre carrière, est-ce que vous gardez le souvenir d'un événement, d'une intervention de votre part qui était particulièrement marquant ou un fait que vous avez traité qui faisait partie des faits divers de tout le monde ou à Chartres, ça n'arrive pas très souvent hein.
Alors, en province, c'est pas comme à Paris, on n'a pas des dossiers très médiatiques. Comme dans les grandes villes, ou notamment à Paris, on peut en avoir. Mais il m'est arrivé de plaider deux ou trois dossiers, notamment devant la cour d'assises d'Eure-et-Loir, qui était quand même un peu particulier, des dossiers criminels, avec des... Oui, un peu particulier quand même, oui.
On ne se demande pas, quelquefois, comment les gens peuvent être...
Si on se pose des questions, on se demande comment certaines personnes ont pu arriver à commettre des extrémités. Elles n'en ont pas forcément le profil au départ, mais elles arrivent à des extrémités, à des crimes très graves, et on se pose des questions. Oui,
oui parce que finalement, l'être humain, on dirait un animal, mais
on ne connaît jamais véritablement l'être humain. Il a des ressorts et des tréfonds qui peuvent être très noirs ou voilà.
Effectivement, je crois que ça peut être quand même quelquefois assez choquant de rencontrer des gens dont de prime abord on n'imaginerait pas.
La personne que vous voyez en face de vous, si vous ne savez pas ce qu'elle a commis, vous ne pouvez pas imaginer qu'elle a pu le faire.
Mmh. Alors donc, vous avez effectivement, c'est un travail prenant, passionnant, mais vous avez, avez-vous un petit jardin secret quand même ?
Oh, j'ai un petit jardin secret. Moi, je suis très féru d'histoire contemporaine. Enfin, j'aime beaucoup l'histoire de la période de 1900-1960 à peu près. Mmh. Donc je lis beaucoup de livres d'histoire, des biographies, j'aime beaucoup cette période-là, je lis énormément.
Voilà, ça c'est un joli jardin. Hein. Et vous trouvez quand même le temps d'avoir un peu de loisir, parce que bon, tout à l'heure on a parlé un peu de musique, je suppose, il y a le théâtre et tout, mais qu'est-ce que vous aimez faire en plus de ça, si vous avez un peu de temps?
Alors quand j'ai du temps, avec mon épouse là, récemment, on s'est inscrit au golf de Fontenay-sur-Eure, puisqu'il est tout près de Chartres, et on a commencé à s'initier à ça. Faut dire que tant qu'on avait les enfants à élever, c'était compliqué. Hein. Et on n'avait pas beaucoup de temps. Maintenant que les enfants sont grands, qu'ils ne sont plus à la maison, qu'on arrive à un âge où on peut plus avoir plus de loisirs, donc c'est un peu plus facile. Donc il y a cette activité-là. Je fais partie depuis très longtemps aussi du Lions Club de Chartres.
Ah. Hein.
Donc je me suis aussi un peu investi dans ce domaine-là, puisque notamment j'ai été président il y a quelques années. Mm-hmm. Mon épouse est présidente actuelle également au Lions Club.
Oui, il faut juste dire que c'est un club service, donc voilà. Qui finalement s'attaque à des problèmes que la société ne gère pas.
Exactement. Voilà. Et puis, j'ai d'autres activités. Bon, on aime beaucoup l'Espagne avec mon épouse, donc on voyage beaucoup en Espagne, mmh, mmh. Voilà, dans les pays du soleil, tout ça, voilà, quand on peut s'évader un petit peu. Voilà.
Alors, si un jeune va vous voir et il va vous demander les raisons pour lesquelles il faudra devenir avocat, qu'est-ce que vous allez
lui s'il vient me voir, c'est qu'il a envie de faire ce métier. Donc, les raisons, il en a déjà lui-même. Hein. Mais moi, je l'encouragerai, bien sûr, parce que de toute façon, je ne pourrais pas faire autrement que de l'encourager. Je l'ai fait, moi, il y a bientôt 40 ans maintenant. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, un jeune ne continue pas dans ce beau métier. Bien sûr, c'est complètement différent d'il y a 40 ans, c'est clair. Le métier a totalement changé. Mais il est plus dur aujourd'hui, à mon avis, qu'il y a 40 ans. C'est beaucoup plus difficile pour un jeune aujourd'hui qu'à mon époque, bien sûr. Mais quand même, il n'y a pas de raison. S'il en a la volonté et s'il a le courage chevillé au corps, il s'en sortira.
Ah oui, d'accord. En tout cas, je pense que la manière dont vous en avez parlé, ça devrait donner envie à certains jeunes. Et je pense, je suis très heureuse de vous avoir invité parce que les gens sont souvent assez déçus par leur vie professionnelle. Souvent, c'est ce qu'on entend, certains regrets et tout. Et là, c'est bonheur. Donc, je pourrais dire que j'ai rencontré un avocat heureux.
On peut le dire.
Très bien. Et ça pourrait être peut-être le mot de la fin. Merci, Maître Michel Festivi, d'avoir bien voulu nous parler de la vie d'un avocat d'aujourd'hui et peut-être, et j'espère, d'avoir donné envie à des jeunes de vous suivre sur vos traces. Alors, nous allons vous quitter en écoutant Florent Pagny qui nous chante « La donnée est mobile », titre que je ne devrais certainement pas traduire à Michel Festivi. Et je vous dis au revoir et à bientôt.
Merci.
Et merci d'être venu.
Sempre un amabile leggiadro viso, in pianto un riso e mezzognero. La donna è mobile, qual più mal vento muta l'accento e di pensier. S'affida chi le confida mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice a pieno qui su quel seno non libba amore. La donna è mobile.